Oui, merci Monsieur le Président. Donc moi j'ai relevé trois points, enfin surtout un dans vos propos qui m'interpellent un peu, mais c'est vrai que globalement je tenais à redire aussi enfin, le plaisir même qu'il y a à travailler dans cette assemblée de la manière la plus constructive possible. Mais j'ai entendu que vous avez dit que la lutte contre la fraude ne constitue plus un marqueur politique à propos du RSA. J'ai envie de dire, je ne pense pas que pour la fraude sociale, cela ait jamais été le cas. Je ne pense pas que quiconque ait dit ici qu'il ne fallait pas lutter contre la fraude sociale. Je me souviens encore de propos dans ce sens par le passé, y compris moi-même. Et puis le tenir ce propos, y compris quand cette fraude sociale est constituée par des abus plus ou moins volontaires. On sait très bien aussi qu'une partie des sommes que nous avons à recouvrir et que nous devons recouvrer sont des indus qui ne sont pas forcément du fait de leurs bénéficiaires involontaires. D'autres le sont, et là il faut agir aussi, et on l'a toujours dit. Par contre, s'il y a un marqueur social, c'est peut-être vrai sur d'autres fraudes. Je sais que nous avons été, par le passé, plus généreux sur certains indus, peut-être aussi involontaires, qui ont été concédés, notamment à des entreprises. Si vous le souhaitez, je sais pas, j'ai eu l'occasion de m'en exprimer dans les médias, mais je peux vous proposer rapidement un vœu de notre département pour demander à l'Union européenne des mesures plus efficaces contre l'évasion fiscale, hein, puisque certaines multinationales peuvent se soustraire à l'impôt par des voies relativement contestables, peu légitimes, mais légales parfois, et donc peut-être qu'il faudrait le revoir. Pour information, la société IKEA, par exemple, en 2014, je crois, a soustrait 24 millions à l'impôt en France seulement. Voilà, donc c'est 24 millions qui manquent au budget de notre État, même si c'est par des procédés légaux, mais si vous les regardez un petit peu, ça fait un peu frémir quand même sur l'intention et la volonté de cette société, parmi beaucoup d'autres, de nous aider à développer l'aide sociale, par exemple. Il y a une autre lutte qui me paraît pouvoir constituer un marqueur social, en tout cas pour l'instant, c'est la lutte pour l'accès au droit. Parce que le volume du non-recours au RSA est plus important que le volume des indus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de gens qui devraient en bénéficier, qui n'en bénéficient pas, que de gens qui ne devraient pas en bénéficier et qui, par une fraude, comme vous dites, en bénéficient. C'est notamment le constat qu'on a fait de l'échec du RSA activité, qui nous concerne moins, mais on a vu que la moitié maximum des gens qui y avaient droit en ont bénéficié et que donc, du coup, le résultat n'a pas été au rendez-vous, puisque l'impact que devait avoir le RSA activité est évidemment fortement pénalisé si les gens n'y ont pas recours. Alors peut-être que la recentralisation de l'ensemble du RSA va nous inciter, nous, à mettre le maximum sur l'accès au droit. Une fois que ce sera un accès au droit pour les Loiretains, mais que ce sera le budget de l'État qui paiera, peut-être que nous allons nous mobiliser plus fortement. Mais je crois que, comme nous sommes tous convaincus que le RSA n'est pas une largesse que l'on accorde à des gens, mais un besoin pour toute la société de ne pas tolérer la misère, de ne pas tolérer que des gens soient laissés sur le côté, quelque chose qui bénéficie à tous. Et si nous en sommes convaincus, nous devrions être plus forts dans la lutte pour l'accès aux droits dans le département. Alors les autres points qui m'ont marqué sont plus rapides, hein. Vous avez dit également que nous devrions augmenter l'impôt, même si nous n'inscrivions aucune dépense d'investissement durant le mandat. Alors ça me surprend un peu comme calcul, parce que moi je m'apprêtais à vous proposer au moins un investissement à hauteur de 100 millions, qui permettrait peut-être de ne pas augmenter l'impôt. J'ai du mal à croire qu'avec 12 millions d'impôts en plus tous les ans, on arrivera rien qu'avec ça, à investir 700 millions en 5 ans. Mais bon, vous m'expliquerez le calcul, j'imagine, ou nous le verrons peut-être en commission finance. Et il y a un autre point où là, je m'interroge un peu plus fortement, c'est quand vous dites nos investissements génèrent de l'emploi et du pouvoir d'achat. Alors, je ne conteste pas que les investissements génèrent de l'emploi. Mais il y a un rapport qui m'a interpellé. C'est le rapport A6 à propos de l'enfouissement des réseaux, et où il y a une phrase, je peux même vous dire, je crois que c'est page 3, qui souligne que ces travaux vont créer des emplois non délocalisables. Mais moi, j'ai assisté très récemment, il y a un an ou deux, à des travaux d'enfouissement menés par le département dans la rue où j'habite. Donc c'est ce programme-là. Hein. Je peux vous dire que les travaux étaient conduits par un Italien, sans doute pour une entreprise française, hein, et que les travailleurs étaient, je ne me souviens plus, mais je pense polonais. Voilà, parce que effectivement, le BTP, il y a quand même aussi les fameux emplois qui se promènent. Hein, je ne sais plus. J'ai perdu le nom, mais enfin les emplois détachés, hein, les travailleurs détachés. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, il faut qu'on se méfie quand même quand on dit qu'on va générer de l'emploi. Je préfère l'approche. Je suis d'accord aussi, hein, Frédéric Léon l'a dit. On sait qu'on génère de l'emploi, mais il faut se méfier quel emploi on génère. Et je préfère la deuxième approche qu'a proposée Frédéric Néraud, c'est de dire que nos investissements apportent surtout de la qualité de vie, des réponses aux besoins de nos concitoyens. Même si certains de ces investissements, il faut le savoir, génèrent aussi de nouvelles dépenses de fonctionnement. Je vous remercie.